AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, tiens, on fait de la prévention le jeudi avec le docteur Réginald Allouche qui est avec nous. Bonjour doc.
Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour,
ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous publiez la nouvelle méthode anti-diabète, comment limiter ou stopper les risques du diabète chez Flammarion. Vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous pouvez aussi commenter les jubilés de la reine, accessoirement, mais c'est pas ça qu'on fera ce matin. On va parler du rôle de la nouvelle star, le microbiote et du diabète. Alors vous, vous êtes toujours parmi ceux qui disent flore intestinale. Pourquoi est-ce que vous vous refusez de l'appeler microbiote ?
Microbiote, ouais. Parce que je trouve que flore intestinale, ça veut dire diversité. En fait, ce qui fait la richesse de votre microbiote, pour utiliser le terme consacré aujourd'hui, c'est qu'il a plusieurs types d'espèces qui cohabitent entre elles. Et franchement, on ne se rend pas compte de la puissance de cette flore. En fait, qu'est-ce que c'est la flore intestinale et le microbiote ? C'est quoi ? C'est l'homme qui, à un moment, s'aperçoit qu'en hébergeant ces germes-là, il peut avoir une vie meilleure. En fait, c'est une symbiose, c'est-à-dire c'est un accord entre une partie de la nature et l'homme. L'homme a réussi à faire que des germes viennent coloniser son tube digestif et particulièrement son intestin et son côlon, et que ces germes travaillent pour lui. C'est ça qui est extraordinaire, parce que votre flore, elle travaille pour vous. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous ? Elle fait un élément extrêmement important qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du plaisir et du bonheur. Non, du bonheur et du bien-être, excusez-moi. Le plaisir, c'est la dopamine, c'est fait par le cerveau. La sérotonine, c'est le bien-être. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie pas terrible, mais se lever le matin et se dire « Oh là là, je me sens bien, il fait beau, ça va ». Et ça, c'est la sérotonine. Et d'ailleurs, les gens qui ont des problèmes, qui ont une dépression, sont des gens qui manquent de sérotonine. Eh bien, figurez-vous que la sérotonine, elle vient de ce microbiote et de cette flore bactérienne intestinale. Donc, c'est vraiment... Elle ne fait pas que ça. Elle nous aide à faire des vitamines. Elle nous aide à absorber les nutriments que nous absorbons. Elle reste tranquille. Parce que quand elles ne sont pas tranquilles, vous savez ce que c'est. Vous savez comment vous agressez votre flore et qu'elle n'est pas contente. Quand vous allez à l'étranger et que vous êtes en contact avec une alimentation différente, vous allez dans un pays plutôt humide, plutôt chaud, vous avez ce qu'on appelle la tourista. La tourista, qu'est-ce que c'est ? C'est un décalage dans la vie de cette flore. Parce que cette flore, il faut l'imaginer. Imaginez tous les centimètres de votre tube digestif qui fait 6 mètres. Imaginez tous les centimètres que vous avez une espèce différente. Et cette espèce, c'est d'ailleurs une américaine qui est un pur génie, qui a prouvé que chaque bactérie dans votre corps, chaque bactérie dans ce centimètre parle deux langues. Sa langue à elle et la langue du voisin pour pouvoir communiquer parce qu'en plus elles se parlent entre elles. C'est absolument extraordinaire. Donc en fait, il faut bénir ces bactéries. Ces bactéries, elles viennent d'où ? Elles viennent de votre famille. Donc on a... Alors là, je sais que les puristes se battent entre eux. Est-ce qu'il y a 17 types de flore, 24 ou 50 types de différentes flores ? Mais en fait... On a la flore à l'enfance et on la garde toute sa vie. Et on a d'ailleurs beaucoup de mal à la modifier, il faut savoir. Par exemple, les gens qui souffrent de maladies de Crohn ou de rectocolite hémorragique sont souvent des gens qui ont une pauvreté de flore. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple, 1000 espèces, elles en ont 600 ou 700. C'est pour ça qu'on pense beaucoup à la greffe fécale pour pouvoir les aider à rétablir leur microbiote en prenant les fesses. Et des échantillons, soit du frère, soit les fesses, en fait, c'est le caca. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié.
Oh là, oui, alors, voilà. Si vous dites le caca. Si, si.
Voilà, on est à la radio, dans une radio digne comme Peur FM, donc je dis les fesses. Voilà, mais...
J'ai jamais entendu ce mot-là.
Les fesses, oui. Bah, le péril fécal.
Oui, là, là, je comprends.
Fécal, fesses, c'est la même racine.
D'accord.
Voilà. Mais les médecins, vous savez, utilisent toujours des mots, des mots à eux. Comme ça, ils peuvent parler dans les...
Bon, si vous dites ça à votre patient, vous pouvez être sûr que vous l'avez perdu. Hein.
Voilà, on l'a perdu. Bon. Mais il y a quand même quelque chose qui a la même racine, c'est le fécalome. Vous avez jamais entendu parler du fécalome ? Il y a certaines personnes âgées qui sont fatiguées, qui n'ont plus vraiment d'énergie, et il y a une boule de fesses qui est coincée. Et parfois, il faut aller les chercher pour justement lui permettre de retrouver un transit. Parce que quand on n'a pas de transit, on a vraiment de gros problèmes.
Bien. Donc ça, et tout ça, ça se passe lors de l'accouchement,
l'accouchement,
on n'accouche pas par césarienne, bien sûr.
Alors, quand on accouche par les voies naturelles, si j'ose dire, à ce moment-là, on va hériter de la flore bactérienne de la famille. Hein, voilà, donc c'est... Et d'ailleurs, une recommandation importante, il ne faut pas être trop propre avec les bébés. Il faut être propre, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut pas les infecter. Mais il faut pas
être trop stérile.
Être trop stérile parce que c'est à ce moment-là où il va lui commencer à fabriquer son immunité et être en contact. Par exemple, un enfant sur lequel on a été beaucoup trop stérile au début. Quand on va faire la diversification alimentaire, vous savez que la diversification alimentaire, c'est introduire des aliments normaux, classiques, après le lait. En général, on dit que la diversification, c'est 6 mois. Mais à ce moment-là, si ça a été trop propre, il peut faire des allergies contre les aliments. Hein? Il va se fixer parce qu'il faut qu'il fasse son immunité.
On verra ce que nous disent les études, hein, après les 2 années de pandémie où on a été quand même un tout petit peu plus maniaque, oui. Et avec l'usage notamment du gel hydroalcoolique.
Oui. Mais il y a eu très peu de gastroentérite.
Les bébés n'ont pas été malades.
Les bébés n'ont pas été
Peut-être
malades.
Pas suffisamment.
Alors est-ce qu'il y aura des allergies alimentaires? On n'en sait rien.
C'est ça qui
est à suivre avec beaucoup de précision.
Ouais. Alors vous racontez dans votre livre qu'on a mené une expérience sur les microbiotes des souris et concernant le diabète. Alors qu'est-ce qu'on a fait?
Alors ce qu'on a fait, j'ai collaboré, on a pris le microbiote donc des fesses, donc du caca de rats qui n'étaient pas diabétiques, qui étaient diabétiques, et on l'a introduit chez des rats qui ne l'étaient pas. Et ils le sont devenus au bout de 10 jours.
Moralité.
Alors, faut faire très attention au lien de causalité. Vous savez, ce genre d'études, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, alors on a remarqué que si on fait ça, donc c'est ça, donc c'est la flore qui donne le diabète. » Pas du tout. C'est que je pense que la flore bactérienne est le témoin de ce qui se passe plus haut. C'est-à-dire que si vous avez un diabète, le diabète va modifier la composition non seulement des espèces, mais aussi leur nombre, et va créer une, entre guillemets, dysbiose. Hein, c'est-à-dire que ça va pas bien se passer dans la flore. Si on prend cette flore et qu'on la donne à un autre animal, eh bien, on peut avoir un effet un peu rétroactif. C'est-à-dire que la flore va provoquer les symptômes d'un diabète. Et puis, bon. Mais les rats ne sont pas des hommes. Je tiens à le dire. C'est-à-dire que cette expérience, si vous voulez vraiment la faire conclure, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, mais ça n'apporte pas une conclusion. Si vous voulez conclure, il faut le faire chez des hommes.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir finalement, quand on observe le microbiote des personnes diabétiques, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'il y a un microbiote spécifique des diabétiques? Et là, je parle du diabète essentiellement de type 2 aujourd'hui.
Oui. Alors, on sait par exemple que... je ne parle pas de l'anide du point de l'obésité, parce que aujourd'hui on sait que par exemple les obèses ont des bactéries qui s'appellent les archébactéries, qui sont des bactéries qui ont 3 membranes, qui viennent de l'eau de mer, enfin c'est très compliqué. Alors là aussi, c'est, est-ce qu'ils ont les archébactéries parce qu'ils sont obèses, ou est-ce qu'ils deviennent obèses parce qu'ils ont des archébactéries? Personne ne peut répondre. Donc maintenant, pour répondre à votre question précisément sur le diabète, souvent les diabétiques ont une flore un peu inflammatoire, et donc il y a deux types de grandes familles, ce qu'on appelle les firmicutes et les bacteroidetes. Et souvent, on a plus de firmicutes chez les gens qui ont un diabète de type 2, c'est-à-dire c'est une population qui est plus inflammatoire, et donc on a une flore qui est inflammatoire. Et alors, après, on peut faire des PCR, c'est-à-dire qu'on prend des selles, on fait une analyse et on regarde un peu la répartition de la flore bactérienne. Le problème quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait après?
Ben oui, c'est comment agir? Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion d'un point de vue de traitement?
Voilà, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui est disponible pour modifier un petit peu la flore bactérienne intestinale, c'est les probiotiques. Vous savez qu'il y a 2 grandes catégories de produits pour le tube digestif, les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres solubles qui vont être boulottées, je dirais, par les germes, qui vont les nourrir, d'accord? C'est ce qu'on appelle c'est des noms techniques, c'est les fructo-oligosaccharides, c'est l'inuline. C'est des produits qui peuvent être très très intéressants pour justement calmer des flatulences ou calmer des constipations, ainsi de suite. Et puis, donc vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre des probiotiques. C'est quoi les probiotiques? Hein, c'est une lettre qui change, mais ça change tout. Ben, ce sont les germes eux-mêmes. Mais le problème, c'est que 95% de vos 100% de germes sont anaérobies. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas à l'air libre. Dès qu'ils sortent de votre anus, ils meurent. Alors qu'il n'y a que 5% d'aérobie. Et si je vous propose donc des probiotiques, je vous propose donc des aérobies, parce qu'ils sont vivants dans la gélule, puisque c'est plusieurs milliards dans une gélule. Donc en fait, si par bonheur, il vous manquait ces germes, qui sont en général des lactophilus et ainsi de suite, si vous manquiez de ces germes, ben, ces coups de bol, vous les prenez, ça va mieux. Mais si vous ne manquez pas, ben, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Tant qu'on n'aura pas de probiotiques anaérobie, Et donc, les seules façons de donner des probiotiques anaérobies, c'est de les faire avaler dans une gélule directement dans l'estomac.
Donc, mais pour l'instant, rien de probant. Ne vous jetez pas sur une analyse de votre microbiote.
Non, parce que c'est très difficile.
Ça n'a pas une utilité.
Parce qu'il y a plusieurs choses. Vous avez l'analyse d'un côté, donc le tableau de votre flore. Et puis après, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Et est-ce que vraiment votre flore est pathologique ou pas? Est-ce qu'elle est pathogène ou pas? C'est très difficile. On est au début de l'histoire aujourd'hui. Il y a eu un grand engouement. Moi, je parlais de la flore il y a déjà une dizaine d'années dans mes précédents livres. Il y a un engouement, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution. Pas vraiment de solution. Donc, voilà. Wait and see.
Ce qu'on sait, c'est que les gens et ceux qui nous écoutent se passionnent pour ça.
Oui, d'autant qu'il y a un facteur important. On a 10 fois plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. D'accord ?
Quand on pense à ça, ouais.
Voilà, ça veut dire que qui est l'alien de l'autre ? Qui occupe l'autre ? En fait, on est plus petit qu'eux, en termes de cellules. Donc, il y en a 10 fois plus. C'est pour ça que la flore, moi je dis souvent pour rigoler un peu, soignez votre flore, parlez-lui, soyez gentil avec elle, parce qu'elle fait un boulot incroyable pour vous. Et quand elle n'est pas contente, eh ben vous le savez tout de suite, c'est la tourista. Hein, les diarrhées, les machins, les trucs. Alors qu'aujourd'hui, vous, Philippe, vous avez des milliards de bactéries qui vivent paisiblement dans votre tube digestif et qui font même une chose incroyable. Elles dorment la nuit. Elles ont besoin de calme parce qu'elles se reconstituent. Elles se nettoient. Et alors, on ne parle que des bactéries. Mais sachez qu'il y a aussi des virus dont le nombre n'est pas connu. Et il y a aussi des bactériophages qui sont probablement un peu l'avenir des traitements. Les bactériophages, qu'est-ce que ce sont ? Ce sont des virus tueurs de bactéries. Et donc, vous savez qu'il y a une grande école en Géorgie, en Russie.
À Tbilissi,
en Géorgie.
La capitale des phages.
La capitale des phages, parce que dans les années 20, l'armée rouge voyait ça comme une arme. Et donc, ils ont développé le plus grand centre et le plus grand institut de bactériophages qui permet de guérir beaucoup de choses. Et je crois que...
Googlez, parce que ça, c'est l'avenir.
Ah oui, c'est l'avenir. Et
quand on parle d'antibiorésistance... À Lyon Ils sont à Lyon, les spécialistes des phages.
Exactement. Ouais. Et ils font un travail incroyable. Et c'est très, très bien, parce que je pense que c'est une piste incroyable. Pourquoi ? Parce qu'elle est naturelle.
C'est ma passion, les phages.
Et les phages.
Ah oui, voilà. Franchement. Mais pour trouver quelqu'un, un bon spécialiste...
Ah, c'est très, très
pour difficile. Venir parler des phages, ben là, c'est Quentin, docteur.
C'est très difficile parce que c'est... D'abord parce qu'il y a un petit côté magique, hein. C'est-à-dire que vous avez en vous des bactériophages qui sont capables de vous guérir de grandes maladies.
Et les Français étaient les champions du monde des phages il y a 100 ans.
Oui, mais tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a fait de tels progrès en pharmacie que les progrès pharmaceutiques ont écrasé, en fait. Elles ont écrasé l'herboristerie, elles ont écrasé la bactériophagie. Donc... En fait, alors, est-ce que c'est bien, pas bien ? C'est pas à moi de juger. Je dis qu'aujourd'hui, les gens sont bien soignés, il y a des médicaments, et on tape sur les labos pharmaceutiques, ok, parce qu'ils font de l'argent, tout ça, mais la réalité, c'est qu'ils ont fait d'énormes progrès.
Et on parle de prévention ce matin avec le docteur Réginald Allouche à l'occasion de la sortie de la nouvelle méthode anti-diabète du docteur Allouche.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Alors, un mois avec le docteur Allouche, hein, tous les jeudis, 9h-10h sur Beurre FM. On parle aujourd'hui de la nouvelle méthode anti-diabète du docteur Allouche qui vient de sortir, nouvelle édition chez Flammarion. Est-ce que depuis que vous exercez une trentaine d'années au fait de la médecine de docteur Allouche, est-ce que la définition du diabète a évolué ou pas ?
C'est la définition, pas vraiment. Alors, on rappelle pour nos auditeurs, un diabète de type 1, c'est un diabète auto-immun, c'est une maladie qui se déclare souvent chez l'enfant et l'adolescence, ou nourrissons même parfois, à la suite d'une infection. C'est une maladie qui touche 10% des diabétiques, et c'est un enfant qui, lors de l'infection, va faire des anticorps contre son propre pancréas. Il va détruire son pancréas. Et le diabète de type 2, c'est le diabète le plus nombreux, 90% des gens, et c'est un diabète, en fait, qui est lié à une génétique, parce que si on a des parents qui sont diabétiques, on a plus de risques d'être diabétique soi-même. Hein. Si on a deux parents, c'est 50% quand même. C'est un diabète qui est le diabète de une partie génétique, un manque d'activité physique, une sédentarité réelle et une alimentation mal adaptée. Hein, je dis pas mauvaise, mais mal adaptée. Hein, quand on a une génétique comme ça, je suis désolé de le dire, quand on a cette génétique, il faut changer son alimentation. Elle ne peut pas être l'alimentation traditionnelle. Je dis ça parce que le rôle du pain, par exemple, dans l'apparition du diabète. Hein. Le pain, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'amidon fermenté. L'amidon, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des chaînes de glucose attachées, des centaines de milliers de glucose attachées, et on va le faire fermenter. C'est quoi la fermentation ? C'est une prédigestion. Donc quand on mange du pain, c'est comme si on mangeait du sucre. Voilà. Et donc, c'est, je sais parce que c'est...
Pour l'organisme, en fait. Pour le résultat est le même, c'est ça que tu veux dire.
Le résultat est le même. Donc quand on a un passé ou des gènes dans la famille, on sait qu'il y a du diabète, du surpoids, aussi un foie gras, eh bien à ce moment-là, il faut faire attention à sa consommation de pain. Je suis désolé de le dire parce que... Et de bière, par exemple. Le bière, qu'est-ce que c'est la bière ? C'est des céréales fermentées. Pourquoi, en fait, on faisait le pain, la bière ? Tout simplement pour une raison, c'est qu'il fut une époque où le blé était rare, où les céréales étaient rares, et en fait, il fallait nourrir les gens. Et il fallait qu'une calorie générée devienne donc un nutriment qui était fait par l'homme, cultivé par l'homme, puisse être intégré et stocké par l'homme pour qu'il survive. Donc on a fermenté les produits. Vous savez que les rois de la fermentation, ceux qui ont inventé la fermentation, sont les Égyptiens. C'est eux qui ont fait le pain. C'est eux qui ont fait lever la pâte. Parce que quand vous allez au Moyen-Orient, vous avez beaucoup de
pain plat.
De pain plat, que ce soit au Liban. Et en fait, ce sont les Égyptiens qui font le pain. Ce qui différencie et ce qui est venu dans tout le Maghreb, via la Libye, en Tunisie, Algérie, Maroc, c'est plutôt la vision, le pain façon Égypte, alors que de l'autre côté, c'est plutôt les pains plats.
Ils sont parfaits, hein. Ils ont inventé le foie gras et le pain, donc c'est complet.
Oui.
Alors, votre livre est une méthode en 8 semaines avec 4 phases, dont une phase détox, qui est la première phase. Ça veut dire quoi dans votre bouche, docteur Alouche, qu'une phase détox ? Alors, ça vous a tellement pas de parler
non,
de détox.
C'est vrai, vous avez absolument raison, Philippe, vous commencez à me connaître. La détox, c'est presque, ça veut pas dire grand chose. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'à un moment, les personnes se rendent compte de tout ce qu'ils mangent dans la journée. Donc cette phase détox, en fait, c'est une phase un petit peu, vous voyez, soupe et jus, hydrique. Et là, ils s'aperçoivent de tout ce qu'ils mangent dans une journée. C'est juste une prise de conscience, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de remède miracle à un problème qui a mis des années à se constituer. Le diabète met des années à se constituer. Il met 5 à 15 ans, en moyenne. Donc, pendant 5 à 15 ans, il fait son trou, il prend position de votre corps. Alors, je le décris comme une espèce de personnage, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est ce personnage, il est né d'une génétique favorable, d'un certain laisser-aller et de moindre effort. Et donc, il s'installe. La nature ayant horreur du vide, à ce moment-là, le sucre commence à ronger les artères, les grosses. Et donc, ils font les maladies cardiovasculaires, les petites, et ils font les problèmes d'yeux, les problèmes de reins, les problèmes d'érection, les problèmes de neuropathie diabétique. Et quand on va plus loin, eh bien, ils favorisent les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson. Ce qui prouve bien qu'il y a une participation vasculaire à ces maladies, puisque le diabète, en gros, c'est la maladie qui atteint les vaisseaux sanguins. Voilà.
Vous appelez ça l'inflammation de bas grade ?
C'est une inflammation de bas grade parce qu'il ronge tous les jours un
bas
petit
grade,
peu.
Bas grade, ça veut dire quoi ?
De bas niveau.
De bas niveau, d'accord.
De bas niveau.
Et pourquoi inflammation ? Pourquoi dit-on du sucre, par exemple, ça paraît fou, qu'il est inflammatoire ?
Parce que quand vous mettez du sucre dans du sang, et un peu trop, il est inflammatoire pour le vaisseau qu'il transporte. Voilà, c'est tout bête. Il a des propriétés intrinsèques inflammatoire. C'est-à-dire que si vous le mettez, c'est facile à comprendre. Quand vous avez un tuyau chez vous et que vous avez une eau calcaire, qu'est-ce qu'elle fait l'eau calcaire ? C'est pas grave d'avoir une eau calcaire, vous la buvez, donc c'est pas très très grave. Mais le calcaire, au bout de 5-10 ans, fait que vos tuyaux, vous les entendez avec le calcaire. Ils se mettent à craquer, parce qu'ils se dilatent, ils se contractent, et le calcaire empêche la dilatation et la contraction. Et ces tuyauteries qu'on entend la nuit, qui font clink, clank, clank, tout simplement parce que c'est comme le diabète. Le calcaire qui n'est rien, puisque vous l'avalez encore une fois, mais quand il se pose de au fil du temps sur vos réseaux de d'eau, eh bien à ce moment-là, ils détruisent le réseau d'eau, ils détruisent les joints. Vous savez, c'est pas faut pas non plus être très pour comprendre ce qui se passe. Ça attaque les joints, ça attaque les vaisseaux. Eh ben c'est exactement la même chose avec le sucre. Le sucre est fait pour rester entre 0,75 grammes par litre et 1,05 grammes par litre à jeun dans votre sang. S'il est au-dessus, eh ben, c'est pas prévu pour. C'est pas des tuyaux prévus pour. Et chez vous, si vous voulez des tuyaux prévus pour, il faut des tuyaux avec vous mettez un truc anti-calcaire, vous savez, un truc avec des trucs qui réagissent avec le calcaire. Mais il faut faire une installation en amont. Parce que c'est ce qu'on fait avec la metformine, avec les traitements. On met une installation en amont.
Alors, votre phase détox, c'est son rôle, c'est donc de se rendre compte de ce qu'on mange.
Voilà, c'est
mange.
Une prise de conscience.
C'est ça.
Et de mettre un peu votre organisme au repos.
Donc ça dure combien de temps ?
Ça dure 2 jours.
D'accord, oui, bon, c'est rapide.
Voilà, c'est rapide.
Ensuite, il y a une phase alors intensive, là, pour le coup.
Oui, pourquoi ? Parce que une phase d'attaque, parce qu'on sait que la motivation et la volonté des gens est une tenue, est d'une durée labile. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 2 mois, c'est compliqué d'être plus... voilà. Donc, c'est là où on va essayer de mettre vraiment le pancréas et le foie au repos, et on va diminuer significativement les apports de sucre, et particulièrement les féculents. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs façons d'apporter du sucre. Il y a le sucre en poudre, bon, ça c'est facile à comprendre, vous le supprimez, c'est pas très compliqué, puis on n'en avait pas besoin, puis ça fait des siècles qu'on s'en est passé, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'en passer de temps en temps. Hein. Ensuite, vous avez les légumineuses, et les légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les petits pois, alors les petits pois, on sait jamais si on met un féculent, ou un, peu importe, topinambour. Et ça, les légumineuses, qu'est-ce que c'est? C'est très riche en fibres, riche en amidon, mais dans certains types d'amidon, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, vous avez les féculents, le riz, les pâtes et les pommes de terre, qui sont, eux, très riches en sucre, et dont la captation de ce sucre dépend de la cuisson. Hein. Plus vous cuisez des pâtes, et plus c'est du sucre pur. Voilà. Donc en fait, le principe de cette phase dite d'attaque, c'est de réduire significativement, à part le matin où on a du pain, de réduire pour commencer à mettre en votre repos, votre organisme au repos, commencer à perdre du poids. Mais dans cette phase, il y a aussi... mais on mange suffisamment pour pouvoir faire de l'exercice physique. Parce qu'en fait, si vous prenez 100% de l'efficacité d'un traitement pour le diabète, bien entendu, ce ne sont pas des chiffres inscrits dans le MAM, mais moi je considère que 50% c'est l'exercice physique dans l'efficacité. Vous avez 20%...
C'est pas mal, hein, 50%, oui.
20% ouais. Pour le traitement et 30% pour l'alimentation. Pourquoi ? Parce que nous sommes des individus qui ont été faits, fabriqués, qui ont évolué pour pouvoir courir. Parce que si on courait pas, on n'avait pas de protéines pour les chasser. Et si on n'avait pas de protéines pour chasser, et si on n'avait pas les protéines, eh ben on mourrait. Parce qu'on n'avait plus les structures et ainsi de suite. Donc en fait, on est fait de muscles. Aujourd'hui, nous vivons dans des zones urbaines. Je sais que dans 10 ans, tout le monde a dit que 95% des gens vivront dans des villes. Les villes n'ont jamais été faites pour que les gens bougent. Elles sont au contraire faites pour que les gens ne bougent pas.
Vous conseillez 3 activités. Alors pourquoi ? Déjà, une, c'est beaucoup.
Parce qu'il faut considérer que je parle à des gens qui ont, en général, plus de 40 ans. Quand on a plus de 40 ans, on commence à avoir des petites douleurs. On commence à avoir un corps qui... on a un peu de surpoids. On est fatigué, on dort mal, on ronfle, on peut faire des apnées du sommeil, on se relève fatigué. Quand on est fatigué comme ça, c'est là où on fait des erreurs quand on fait de l'exercice. Donc il faut faire des exercices différents pour éviter de mobiliser les articulations toujours les mêmes. Et c'est pour ça que je recommande de ne pas faire de sport tous les jours. Parce que quand on a 20 ans, on peut faire du sport tous les jours. On récupère en 2-3 heures. Quand on en a 40, voire 50, voire 60... il faut souvent une bonne journée pour que les articulations se refassent une santé. Donc je recommande 3 fois. Pourquoi 3 fois ? Parce qu'il y a eu des publications claires, certaines, faites sur des centaines de milliers de gens, hein, qui servent même dans beaucoup de pays comme base pour la prévention. C'est qu'on sait que si vous perdez 5 à 7% de votre poids et que vous pratiquez 150 minutes d'exercice physique plutôt cardio, vous diminuez les risques de devenir diabétique de plus de 52%. C'est énorme. Donc, et vous voyez, ça coûte rien. Ça coûte rien si ça coûte quelque chose. Ça coûte la volonté. Ça coûte le fait de se dire, voilà, j'ai 40 ans. Si Dieu le veut, je voudrais voir mes arrière-petits-enfants. Vous pouvez aujourd'hui. Vous savez que l'homme, il est programmé pour vivre 120 ans. Voilà. 120 ans, vous pouvez vous diviser jusqu'à 120 ans. Mais vous avez l'environnement, le stress, la vie, qui fait que des gens ne vivent pas jusqu'à cette époque-là. Mais en gros, si vous atteignez 90 ans, vous avez des très très bonnes chances de voir vos arrière-petits-enfants. Et voir vos arrière-petits-enfants, ce sera dans un monde mondialisé comme le nôtre, avec parfois des pertes de valeur, excusez-moi si je dis ça, mais voir son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère donner des conseils, dire « tu viens de là, voilà qui j'étais, voilà ce que j'ai vécu », parce que souvent ce sont des histoires où on a bougé, on a immigré, on a changé de pays, et montrer ce courage, et puis voir aussi pourquoi pas son arrière-grand-mère, arrière-grand-père prendre son sac et aller faire un peu de sport. Alors à 90 ans, on fait pas des trucs, mais faire des mouvements. Eh ben le gosse, il fera des mouvements, l'enfant, il fera des mouvements. Il sera pas sur son canapé à faire que de la Game Boy. C'est très très important l'exercice physique, parce que c'est l'humain. L'humain, on a 70% de masse maigre, c'est-à-dire de masse musculaire et d'organes. Mmh. Laisser cette masse musculaire et d'organes au repos, c'est comme si vous aviez une entreprise où 70% de votre personnel ne travaille pas. Vous aurez des problèmes syndicaux.
Docteur Allouche est avec nous jusqu'à 10h et on fait avec lui cette méthode qui s'adresse à tous ceux qui sont dans la zone grise. La nouvelle méthode anti-diabète aux éditions Flammarion.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Enfin, le docteur Réginald Allouche a mis au point une méthode anti-diabète. Mmh. On en parle, on a un mois pour en parler. Elle vient de ressortir chez Flammarion dans sa nouvelle édition en quatre phases. On a vu la phase détox. On est en train de parler de la phase intensive. Pourquoi est-ce que vous dites que quand on entame ce type de démarche, il faut le dire à personne ?
Alors, il faut le dire à personne parce que quand dans une famille vous dites je suis au régime ou je change mon régime, les gens sont inquiets parce que vos proches ils n'ont pas envie que vous changiez, parce qu'ils ont peur que vos relations à eux va changer si vous changez, et donc ça leur fait pas plaisir. Et souvent j'ai des gens qui me disent oui mais chez moi on n'aime pas tellement que je perde du poids, est-ce que je suis malade, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que le poids aussi nous sommes les enfants, les petits-enfants de gens qui ont vécu la guerre. Ils ont manqué de tout. Ils ont manqué de tout. Ils ont manqué de beurre, ils ont manqué de farine, ils ont manqué d'œufs, ils ont manqué de pain, ils ont manqué de viande, ils ont manqué de tout. Donc pour eux, manger, c'est presque vivre en paix et avoir des moyens. C'est presque un élément de bourgeois, de classe sociale.
De richesse, quoi.
De richesse. Et ils n'ont pas compris qu'à un moment, ce poids va se retourner contre l'individu. Parce qu'avant, on vivait, si on était béni, on pouvait vivre jusqu'à 65, 70 ans. Mais aujourd'hui, l'âge moyen, je rappelle, en France, qui est un pays où j'entends beaucoup de gens râler, se plaindre, mais enfin, que les gens aillent à l'étranger, aillent voir comment on soigne les gens à l'étranger. Je ne fais pas un satisfecit d'un médecin français, mais je dis franchement, la médecine française, moi, je leur tire mon chapeau à mes confrères. On leur tape dessus tout le temps, on tape sur l'hôpital, on tape sur tout. Mais la réalité, c'est que la France, les Français sont globalement... Alors, bien entendu, ça n'empêche pas les histoires de chasse, mais globalement, ils sont bien soignés. Mais ce poids va se retourner contre les gens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire. Alors, on peut le dire à son mari, à sa femme, mais il faut garder ça pour soi. Il ne faut pas en faire un acte de bravoure, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer dans un dîner ? Si vous dites, je ne bois pas, ah non, pas ça, machin. Mais on va ne pas cesser de vous servir. Ne pas cesser de vous servir.
C'est paradoxal, mais c'est ça.
D'ailleurs, moi, je donne un conseil.
Faire craquer.
Voilà. Moi, je donne un conseil. C'est que faites une chose qui est extrêmement impolie quand vous êtes invité. Vous savez, un hors-d'œuvre. En général, le hors-d'œuvre, c'est des salades, c'est des produits, des petits artichauts. Enfin, je sais pas, en été en tout cas. Redemandez de façon claire, est-ce que je peux en avoir encore ? Est-ce que je peux avoir cet hors-d'œuvre ? Il était merveilleux. Alors, bien entendu, on vous le donne. Vous en reprenez. Et à ce moment-là, vous avez gagné la guerre. Pourquoi ? Parce que quand on va vous servir le plat avec des pommes de terre ou avec des trucs, et que vous allez manger la protéine et que vous allez laisser la pomme de terre, etc., on va vous dire, mais c'était pas bon ? Ah si, si, mais je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ton hors-d'œuvre était génial. Ce que veut la mère de maison ? Elle a cuisiné depuis le matin. Ce qu'elle veut, c'est que vous soyez content. Elle est là, elle le fait pour vous. Donc si vous le refusez en disant, ah mais moi je suis au régime, tu comprends, je veux pas, ça va créer un malaise. Alors que là, dire vraiment qu'est-ce que c'était bon ton hors-d'œuvre. Et le dessert, prenez-le, mangez un peu, une ou deux cuillères, et puis dire oh, quelle merveille ce hors-d'œuvre. Voilà, c'est fini, vous êtes tranquille. Mais si vous dites
ce dessert,
si vous dites je ne veux pas, c'est fini, c'est terminé.
C'est la guerre. On va le faire céder. Bon, la phase intensive, elle dure combien de temps ? On a bien compris que c'était, il fallait donc
6 à 8 semaines.
On se débarrasse un peu des sucres.
Et puis manger suffisamment pour faire d'exercice. Moi, je suis contre les régimes qui sont trop restrictifs parce qu'on peut pas faire d'exercice. Et en fait, vous avez compris le but. Le but, c'est quoi ? C'est de faire d'exercice. C'est de pouvoir refaire du muscle. Pourquoi on fait du muscle ? Parce que quand on fait du muscle, vous savez qu'un kilo de muscle brûle 30 calories par jour sans bouger. Donc plus vous augmentez votre masse musculaire, plus vous augmentez les calories que vous allez, votre empreinte carbone, c'est-à-dire ce que vous allez brûler par jour sans bouger. C'est pour ça que le sport ne fait pas maigrir. Le sport, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de faire une masse musculaire qui va brûler à l'arrêt, même en dormant. Voilà, c'est ça qui est important. Mais ce qu'il faut, c'est le faire à vie. Il faut bien comprendre que si on a un prédiabète, si on commence à avoir une glycémie qui commence à augmenter, l'exercice physique, c'est à vie, c'est un job. Voilà. C'est ce qui vous permettra.
C'est pas négociable.
C'est pas négociable.
C'est comme le docteur Alouche, c'est le sac pour aller à la boxe.
Voilà, que je
ne voudrais pas trahir un secret, mais je vous, n'embêtez pas le docteur Alouche.
Voilà, non, pas du tout. Moi, alors les boxeurs, attendez.
Oui.
Moi, je le dis au nom de tous mes amis du cercle de la forme, que ce soit Bolivar ou Garçon, et de mon coach qui s'appelle Albert Mursin, je le dis, je m'en fiche, parce que c'est des gens incroyables. Il n'y a pas plus doux qu'un boxeur. Voilà, il n'y a pas plus doux qu'un boxeur. La boxe, c'est un sport extraordinaire, et je vais vous dire pourquoi. Je vous donne un secret. Vous savez pourquoi la boxe est extraordinaire, surtout quand on a un prédiabète? C'est que le centre de recherche contre le diabète de Strasbourg a publié quelque chose dans Nature. Nature, c'est la référence absolue en matière de publication internationale et scientifique, qui montre que le triceps, ce muscle-là, brûle que du sucre et aide le pancréas à équilibrer un prédiabète. Et vous savez quoi? Vous savez quand est-ce qu'on fait ces gestes? On le fait quand on fait des dips. On le fait quand on nage et on le fait quand on boxe.
Quand on crawl, hein, parce que si on brasse, on ne.
Si.
On triceps aussi, un petit peu.
Le triceps, ça c'est le biceps.
Ouais. C'est celui qui est derrière.
Et c'est celui qui est derrière. Ouais. Et d'ailleurs, pour les femmes, c'est souvent un problème parce que ce muscle est peu développé parce qu'elles n'ont pas l'occasion de le faire et ce qui fait que la peau pend un peu. Remplissez cette peau en faisant vos triceps, d'accord? Ça c'est un point vraiment vraiment important. Il faut vraiment faire marcher les pompes aussi. Les pompes. Ah oui, je sais que les gens n'aiment pas les pompes, mais voilà. En tout cas, c'est pour ça que l'exercice physique, la boxe, c'est un sport absolument merveilleux.
Bien.
Et pas agressif.
Une phase progressive, donc, qui est la troisième phase. Oui. Donc, en quoi correspond-elle, docteur?
En fait, on réintroduit les légumineuses, on réintroduit les féculents, un jour sur deux, avec des quantités qui sont, pour les légumineuses, un bol chinois ras. Pour les féculents, c'est plutôt une assiette à dessert, mais c'est très important pour les féculents, que ce soit le riz, les pâtes ou les pommes de terre, cuit al dente. Parce que quand on est cuit al dente,
Mais alors le riz al dente, c'est compliqué.
C'est un peu croquant. Alors vous pouvez le faire au rice cooker. Avec un rice cooker, vous mettez pas trop d'eau. Quand vous faites le riz, vous mettez pas d'eau un centimètre au-dessus, comme on dit, vous le mettez ras. Donc ça va faire un riz un peu croquant. Et alors,
au niveau de l'index glycémique.
Alors l'index glycémique plus.
Le riz basmati est mieux.
Le basmati et le long grain.
Ouais.
Et le long grain sont mieux parce qu'ils ont plus. Alors, il faut s'asseoir et comprendre. L'amidon, il y a deux amidons. Il y a l'amylose et l'amylopectine. C'est quoi? Je suis désolé, c'est un peu technique. L'amylose, donc l'amidon, je vous rappelle, hein, c'est des bouts de glucose attachés les uns aux autres. L'amylose, c'est une hélice, comme ça. Voilà. Et l'amylopectine, c'est un arbre, comme un cerisier. L'amylose, c'est difficile pour aller couper les liaisons, parce que c'est compliqué. Alors que l'arbre, il suffit de cueillir. Donc, les légumineuses, par exemple, je rappelle les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, ce sont plus riches en amylose. Donc ça va mettre plus de temps. Plus ils ont beaucoup de fibres. C'est pour ça que souvent on a des flatulences quand on mange trop de légumineuses. Les féculents, ils ont beaucoup plus d'amylopectine. Et la reine de l'amylopectine, qui a un index glycémique élevé, c'est la pomme de terre. Donc les pommes de terre, il ne faut pas en manger tout le temps. D'accord? Parce que je sais que c'est un plat qu'on aime bien, parce que c'est sucré. C'est tout simplement parce que c'est sucré. Qu'est-ce que c'est que la frite? La frite, c'est du sucre frit.
Et du gras.
Voilà. Donc comme ça. Donc, si vous voulez des frites, ça ne veut pas dire ne jamais manger des frites, parce que dans ma méthode, il y a trois repas qui sont libres, complètement libres. Mangez ce que vous voulez, mais il faut les faire à 5 jours d'intervalle, 3 repas dans un mois.
Ça, c'est les repas plaisir.
Libres, faites ce que vous voulez. Vous voulez manger un steak frites avec un tiramisu, vous le faites.
Alors, dans cette phase, on réintroduit donc...
Oui, les légumineuses et les féculents.
D'accord.
Le fromage, même dans la phase 1, on peut manger du fromage frais le matin. Le fromage frais le matin, c'est les fameux conseils de Delabos sur le fromage.
Il y a un tableau hein, pour ceux qui nous écoutent, jour par jour. Hein, avec le
exactement,
tableau,
comme ça, ils ne sont pas
c'est
perdus.
C'est bien fait, il y a le tableau.
Voilà. Ouais. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre qu'on peut prendre en main. On peut l'ouvrir. Un livre, ça se lit pas. Un livre comme ça, ça ne se lit pas de la page 1 à la page 1. Il faut, on l'ouvre, on voit un tableau.
Selon la phase où on est, voilà. Ouais.
Le sucre ou la recherche du plaisir, comment je fais par rapport au sucre, quelle est ma motivation, parce que, vous savez, dans un régime, il y a aussi l'émotion qui joue beaucoup. Et on peut très bien, quand on change de paradigme alimentaire, avoir des coups de pompe et dire, oh, j'en ai marre. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est se dire que la perte de poids, c'est jamais une courbe comme ça. C'est toujours une courbe en sinusoïde, avec des points hauts et des points bas. Donc, il ne faut pas s'affoler, parce qu'il y a des mouvements d'eau. Vous savez que une molécule de sel, une molécule de sucre, deux molécules d'eau attachées. C'est pour ça que quand on va dans le désert, la meilleure façon de traverser le désert, c'est de l'eau, du sel et une datte. Mmh. Ou deux, ou trois. Voilà.
Et la dernière phase, c'est la phase de maintien. Mais ça veut dire que on reste à vie. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est qu'après.
Mais attendez, si vous avez un prédiabète, c'est-à-dire que vous commencez à avoir, vous avez un corps qui commence à réagir et qui va pas dans le bon sens, d'accord ? L'idéal, c'est de revenir à la normale. Mais si vous recommencez à manger comme avant, c'est-à-dire une baguette à chaque repas, pas d'exercice, ainsi de suite, il y a aucune raison que ça s'arrête et que ça ne recommence pas. C'est ça. En fait, le plus difficile, c'est de gérer ses émotions. Et de gérer l'environnement. Parce que dans l'environnement, il y a des habitudes. On achète du pain temps, il y a des gens qui achètent trois baguettes. Voilà. On n'a pas besoin, même pour une famille, de manger trois baguettes. Il faut se dire que, aujourd'hui, on a accès à l'alimentation comme jamais. Hein. C'est ce que je dis souvent à des personnes obèses et qu'elles n'ont pas à avoir de culpabilité, les personnes obèses. Les personnes obèses sont des gens qui sont des bénis de la nature. Elle serait née il y a deux siècles où il fallait chercher l'eau à 300 mètres, deux fois ou trois fois par jour, aller dans les champs, garder les bêtes et ainsi de suite, ou même aller au lycée en faisant 3 kilomètres, 4 kilomètres. Ces gens-là seraient minces. Aujourd'hui, c'est la rencontre d'une génétique avec une abondance alimentaire.
Je voudrais qu'on termine sur l'étiquetage précis sur la teneur en gluten. Je sais pas pourquoi vous militez pour ça, docteur Alouche.
Ah oui, alors ça c'est quelque chose.
Parce que je vous ai beaucoup entendu vous exprimer sur le sucre. Vous devez être content parce que les prix du sucre explosent, donc il va y en avoir moins.
Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, le blé. Le blé.
Alors là, en fait, denrée rare. Hein.
Le blé. Ouais. Donc voilà, on va manger un peu moins de pain.
En tout cas, ça va augmenter. Mais alors, pourquoi le gluten? Quel rôle avec le diabète?
C'est parce que je dois faire mon mea culpa. Quand il y a 15 ans, des gens venaient me voir en me disant oui, je suis intolérant au gluten. Moi, j'étais
sceptique.
Pas sceptique. Non. Moi, on m'a enseigné l'intolérance vraie au gluten s'appelle la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune qui touche très très peu de gens, moins de 1%, je crois, de la population. Donc au début. J'ai regardé ça de façon assez goguenarde. Je suis pas quelqu'un de méprisant, donc je l'ai fait de façon très goguenarde, en disant oui, vous êtes sûr, machin. Là. Et puis je me suis renseigné sur le gluten, parce que quand les gens vous disent quelque chose, s'ils souffrent, ils souffrent. Hein. Vous pouvez dire ah ben non, ils souffrent pas. Mais à quelqu'un qui souffre, vous dites tu souffres pas, mais ça n'a aucun
sens. C'est son ressenti.
Voilà, vous êtes médecin, il vient vous voir, il me dit je souffre, il souffre, d'accord. Donc j'ai commencé à fouiller et je me suis aperçu en fait que le gluten, il y a un décret qui est paru dans les années 72, si ma mémoire est bonne, c'est vieux, qui autorisait les boulangers et les pâtissiers et les industriels à rajouter du gluten. Alors pourquoi on rajoute du gluten? Qu'est-ce que c'est le gluten? Le gluten, en fait, c'est la gliadine et la gluténine. Ce sont deux protéines qui protègent l'amande du blé et pour le rendre plus solide. Pourquoi on le rend plus solide? Ça permet soit d'avoir un meilleur rendement à l'hectare, soit de pouvoir mettre plus de pesticides. Voilà. Et ce gluten, donc on a, dans les années 50-60, on a changé ce qu'on appelle les froments. On a pris des froments qui venaient des États-Unis qui étaient beaucoup plus riches en gluten. Première chose, on a changé. Après, on a autorisé le fait de rajouter ce qu'on appelle un améliorant. Si vous connaissez votre boulanger, ce sont des très bons professionnels, et vous allez lui dire, est-ce que tu mets du gluten? Il dira non. Est-ce que tu mets de l'améliorant? Il dira oui. Voilà. Pourquoi? Parce que le gluten, ça permet d'avoir une pâte plus plastique, qu'on peut surgeler. Donc ça permet d'avoir un rendement industriel ou un rendement pour une boulangerie qui est supérieur.
Donc vous demandez de la transparence.
Le problème, c'est que ce gluten, on en a consommé en France en 2012, j'ai pas eu les chiffres après, parce que je me suis renseigné, j'ai été voir les syndicats, j'ai vu tout le monde, j'ai vu la boulangerie, parce que je voulais me faire une idée, je me suis dit, mais ces gens, ils sont quoi? Et en fait, on a rajouté 272 000 tonnes par an à l'époque. Et donc, ça fait 12 grammes par personne et par Français, par jour. Donc, à 12 grammes, si je vous donne 12 grammes d'alcool, vous savez dans quel état vous allez être? C'est pas une maladie cœliaque. C'est que tout simplement, il y en a trop. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça fait des années et des siècles qu'on mange du gluten. Ça n'est pas mauvais.
On en reparlera du gluten. Oui. Tiens, je rappelle le titre de votre livre, Docteur Alouche, et montrez-le à tous ceux qui, à la caméra, puisque vous pourrez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube. La nouvelle méthode anti-diabète. Comment limiter ou stopper les risques? Chez Flammarion. On vous retrouve jeudi, docteur Alouche.
Merci.
Et puis, bonne boxe.
Merci, voilà. Merci.
Retrouvez AVS en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.